Armand Sylvestre, conte de Noël. Une nuit de Noël au fond de la Bretagne, une nuit traversée de rafales avec de belles éclaircies où le soleil se rayait de larges bandes d'un bleu presque noir, frangé d'écume comme la mer, par les nuées et avec des lumières obliques de lune qui coiffaient d'argent clair les têtes nues des grandes pierres. Bien que poudrée de givre, la lande n'apparaissait qu'en masse sombre, comme le moutonnement obscur d'un troupeau couché. Les rares villages, éclairés encore, étaient comme de petits yeux rouges contemplant cette immobilité, de petits yeux clignotant comme ceux des vieux qui ont bu un coup de cidre de trop. Ah, c'est qu'on avait rudement fêté la venue du Seigneur parmi les braves gens qui croient encore et se font un Dieu bon enfant qui ne hait pas qu'on s'amuse quelquefois. Tous les saints du paradis sont aussi en liesse à cette heure-là, sauf le pauvre saint Antoine qui, du haut des cieux, contemple avec amertume cette débauche de charcuterie, se remémorant le bon compagnon qu'il eut sur la terre parmi les bêtes égorgées. Et saint Roch se moque un peu de lui en voyant les chiens se régaler de relief, car lui non plus n'a pas oublié son caniche, lequel s'appelait vraisemblablement saint Roquet sur le calendrier des toutous. Mais redescendons, je vous prie, de ces séjours bienheureux où nous ne sommes attendus qu'après la mort et pas trop impatiemment, je l'espère. Redescendons parmi les bruyères toutes craquantes de gelée, parmi les genêts que fouette le vent, dans le recueillement des choses que traverse encore un bruit lointain de cloches, s'éteignant par ondes mourantes. Des paysans reviennent du château de la Croix-Morgan, où l'on a fait largesse, suivant une ancienne coutume des seigneurs. Saluons-les en les croisant et rendons-nous nous-mêmes à l'antique manoir où se passent, dit-on, chaque année des choses extraordinaires pendant cette pieuse veillée. Monsieur le chevalier de la Croix-Morgan vivait dans le château de ses pères, loin des bruits du monde, ne s'occupant que de bonnes œuvres et justement vénéré dans tout le pays. C'était un gentilhomme de vieille souche qui eût aimé comme un autre la vie militaire, mais avait quitté le service aussitôt qu'il n'avait pas eu devant lui la poitrine de l'étranger. Veuve de bonheur et regrettant toujours sa chère trépassée, il s'était consacré à l'éducation de ses 6 enfants, dont l'aîné Claire avait 12 ans et le plus petit Ferdinand 2 ans. Mais ce n'était pas toute la famille. Il y avait encore sa mère, une respectable vieille, car le chevalier s'était marié et la cinquantaine sonnait, une vieille qui se souvenait d'autrefois, très capricieuse et très gaie, avec de soudaines mélancolies, non pas en enfance elle-même au moins, mais dans un doux état de recueillement intérieur et de rêverie d'où la sortait encore de beaux élans vers la vie, quand sa pensée se grisait de souvenirs. Elle chantait alors des anciennes chansons et monsieur le chevalier était fort embarrassé quelquefois, car la muse des grands-pères était alerte et ne reculait pas devant les joyeusetés. C'était au demeurant le bon temps où l'on chansonnait encore et où l'hypocrisie ne se confondait pas avec le bon ton. Car elle avait été vertueuse comme pas une, la douairière, bien qu'il eût été la plus charmante du monde où elle vivait et pourvue d'un mari tout à fait désagréable. Elle ne s'était jamais vengée de cet animal qu'en se moquant de lui. Et vous ne savez pas encore tout son mérite, car elle avait aimé la pauvre. Elle avait aimé un brillant officier sous la Restauration, le plus aimable qui fut dans l'armée du roi et qui avait composé pour elle de délicieuses romances avec accompagnement de harpe. Car la bonne dame avait connu la harpe et le turban. mais non pas par l'amour coupable. Dire maintenant qu'elle n'avait jamais regretté sa sagesse. Bon, mais à quoi bon aller au fond des consciences? C'était une adorable grand-mère pour les enfants du chevalier. Les enfants étaient répartis dans plusieurs chambres de l'antique castel. Mais pour la nuit de Noël, M. Delacroix-Morgoin eut une idée très paternelle et originale. Il les réunit dans une grande salle qui autrefois était celle des hommes d'armes, afin que toutes leurs petites joies s'unissent et se confondent dans la matinale surprise du lendemain. Toutes leurs mignonnes chaussures avaient été placées à côté les unes des autres dans l'immense cheminée sculptée, aux angles de laquelle grimaçaient de chimériques figures. Ah, tous les beaux rires argentins qui devaient se mêler dès l'aube devant les cadeaux apportés par l'enfant Jésus. Claire espérait fermement toute une bibliothèque illustrée, et Ferdinand avait rêvé d'un polichinelle. Mais le plus heureux de tous était le père, qui savait bien que toute cette allégresse se fondrait en baisers pour lui. Car c'était une âme tendre et qui savait si bien que la vie n'est vraiment que dans ses pures tendresses. En attendant, il avait été recommandé à tout ce petit monde de dormir, et le sommeil était venu. En effet, mais après un terrible chuchotement à voix basse, un chuchotement comme un bruit de feuilles au printemps quand passent les premiers souffles de l'espérance. Oui, tout reposait dans le château, tout. Si ce n'est la douairière que tourmentait une idée bizarre, un caprice extraordinaire, comme en ont les vieux qui semblent avides de repasser par les impressions naïves de l'enfance. Son idée, oh, je vais vous le dire bien vite, c'était de mettre elle aussi son soulier à côté de celui de ses petits-enfants. Eh bien, tout doucement, en se cachant comme pour un crime, elle s'en fut chercher le plus mignon qu'elle eût porté jamais, exquis petit soulier de bal en satin blanc avec des rubans étroits pour nouer à la cheville. Un petit soulier bien vieux qu'elle avait toujours gardé comme une relique, peut-être ou même certainement, parce qu'elle l'avait mis pour la première et l'unique fois à une soirée où elle avait dansé avec le bien-aimé de son choix. Elle l'avait placé près d'une rose qu'il lui avait offerte ce jour-là et qui n'était plus que quelques feuilles sèches et embaumées. Alors, toujours furtive et glissant sur le bout de ses pieds nus, elle s'en fut mettre ce rien charmant dans la haute cheminée. Les enfants rêvaient certainement, mais ils n'eussent pas rêvé que c'eût été absolument la même chose. Quelle heure pouvait-il être? 2 heures? 3 peut-être? Enfin, la vieille dame venait de repartir en se dissimulant derrière les hauts piliers de la salle. Une musique bien douce sortit de la cheminée, une musique vieillotte et tremblotante comme celle des antiques clavecins. Et les petites notes fêlées et chevrotantes se succédaient en un air à la fois sentimental et gaillard qui donnait tour à tour envie de pleurer et de danser. Un brutal rayon de lune déchirant le ciel baignait toute la grande salle, se brisant aux angles des murs et traçant sur les dalles un carré violemment éclairé en blanc. Or, le petit Ferdinand déclara le lendemain, et tous ses frères et sœurs corroborèrent son récit, que les yeux grands ouverts par cette subite invasion de la lumière, il avait très nettement vu tous les petits souliers entrer en danse et se trémousser comme des fous dans cette clarté, tantôt se tenant en ronde et tantôt exécutant des pas pleins de fantaisie. Et s'étant doucement soulevé sur son séant, il avait clairement perçu que cette harmonie sortait d'un soulier blanc immobile dans le mouvement général. Et Claire, qui avait l'oreille très fine, comme toutes les jeunes filles qui aiment bien écouter ce qu'on ne dit pas pour elles, avait nettement entendu que le petit soulier ne se bornait pas à jouer de ce mystérieux piano. Il chantait aussi. Il chantait d'une petite voix à peine perceptible, d'une voix cassée et cependant attirante, où passait comme un souffle perdu d'autrefois. Et cela était si certain que Claire put le lendemain réciter à sa grand-mère la chanson qu'elle avait ouïe ainsi. Car elle avait aussi beaucoup de mémoire, comme toutes les jeunes demoiselles qui ne perdent rien de ce qui ne les regarde pas. Cette chanson, la voici. Que vous fûtes sotte, marquise, de laisser, comme au vent des fleurs, s'envoler vos belles couleurs, avec votre jeunesse exquise, car le temps cruel va changeant le visage plutôt que l'âme. Vous aviez des cheveux de flamme, regardez vos cheveux d'argent. Oui, vous fûtes sotte à l'extrême d'être sage et en su charmé, et de laisser fuir sans aimer le temps adorable où l'on aime. Assez, mademoiselle, fit sévèrement à Claire la bonne dame de la Croix Morgan, tout émue cependant à ce récit enfantin. Oui, très émue, avec un tremblement étrange dans la voix, comme si un remords lui fût passé dans l'esprit, tout près du cœur. Rêve d'enfant que tout cela, vous dis-je. Savez-vous ce qu'on avait trouvé le lendemain dans le petit soulier de bal de la douairière, au milieu des livres et des journaux dont les chaussures des enfants étaient remplies? Un pauvre petit rouge-gorge, que le froid avait précipité sans doute du haut de la cheminée, et qui était mort là. Car il était tiède encore au matin et ses ailes étaient flexibles encore. C'étaient ses plaintes, certainement, ces petits cris d'oiseaux agonisants qui avaient fait aux enfants cette illusion de musique haletante. Et la danse des souliers, s'il vous plaît. Oh, rien de plus naturel. Leurs ombres s'agitant dans le rayon de lune qui descendait de la large ouverture et que le caprice des nuages, poussé par le vent, faisait osciller. Je dis toutes ces choses raisonnables pour les imbéciles qui ne veulent absolument pas croire au merveilleux. Mais pour moi, qui ne crois qu'au merveilleux, les enfants avaient fort bien vu et bien entendu. Et qu'y a-t-il d'étonnant à ce qu'un petit soulier tienne des discours aussi sensés lorsque ceux des hommes le sont si peu?